croyez plus au lendemain qui chante au bon anniversaire.
La France va mal, elle continue à aller mal.
T'avais jamais entendu de rap français, Youssoupha. Tous les quartiers, tous les bleds, la révolution dans la tête, c'était calmement.
Rap, littérature, révolution.
Aïe, 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 vous êtes bien en compagnie de Montaigne Oisetug, émission de rap, littérature et révolution sur Radio Canu, tous les lundis de 13 à 14. Alors là, on est chaud, gros temps, gros soleil, grosse ambiance dans le studio. Et alors, aujourd'hui, j'ai ramené quand même un invité d'exception qui nous vient directement du sud, pour enjailler vos oreilles de petits lyonnais prudes et fatigués. Voilà. Allez, on commence fort. Alors, je vais commencer par présenter aujourd'hui mon invité. Alors, cet invité, c'est un membre considérable de l'ordre des médecins. C'est un des grands scientifiques de notre monde. Il est à la médecine ce que Ferdinand Céline était à la médecine, c'est-à-dire le docteur des faubourgs, le docteur des pauvres, c'est le docteur du tiercar, le docteur du ghetto qui vient aujourd'hui guérir vos maux et plus spécialement les maux du rap game. Il vient lui faire subir les électrochocs nécessaires à son réveil, il vient lui administrer la piqûre d'adrénaline qui va le ramener à la vie. Il est avec nous, Alexandre Legrand, a.k.a. ALG, a.k.a. Le Doc. Bonjour, monsieur Le Doc.
Bonjour, monsieur Teg. Merci beaucoup pour cette présentation. Bonjour à tous qui nous écoutent. Et merci beaucoup. Merci à Radio Canu aussi de nous accueillir. Merci infiniment.
Oui. Parce qu'aujourd'hui, une émission au sommet, une émission un peu de rap. Une émission de rap parce que monsieur Le Doc et moi-même sommes allés ce week-end faire une expérience sociologique des plus complexes, puisque nous nous sommes rendus au concert de celui qu'on appelle Caris.
Exactement, je ne pourrais pas dire mieux.
Alors, vos impressions, monsieur Le Doc, sur ce concert de Caris?
Alors, nos impressions sont multiples. Déjà, nous étions très très curieux de savoir quel public nous allions rencontrer. Nous étions curieux de savoir qui était vraiment ce Caris, ce rappeur chauve à la barbe, ce mec qui se coupe la barbe au sécateur. Il faut le savoir. Ce mec qui a des jambes à la place des bras. Il faut le dire.
Ça fait partie de son personnage et c'est important pour le public de voir en effet des véritables jambes de rugbyman remplacer ses biceps.
Effectivement, même c'est un bison. Que dis-je, c'est un éléphant. Et en plus, il voulait se jeter dans le public. Alors ça, il faut le dire à ceux qui nous écoutent.
Les gens de devant ont eu très peur.
Voilà, et on a fait avoir des morts car il voulait se jeter dans le public. Donc voilà, ce fut une expérience assez riche. Et donc mes impressions sont très très mitigées. On a voulu savoir déjà quel était le public.
Exact.
Alors on s'est longtemps posé la question,
monsieur ALG, on a voulu voir qui était le public parce que on se posait cette question du second degré, qui écoute Caris et à quel degré se fait l'écoute? Est-ce que ce sont des gens qui en rigolent? Est-ce que ce sont des gens qui sont sérieux? Donc c'est pour ça que c'était intéressant de voir le public qui va à ces concerts.
Exactement. D'ailleurs, vous vous posez très souvent la question dans cette émission. Et donc si vous suivez, si vous êtes des écouteurs
et fans,
voilà, et bien vous avez pu peut-être entendre plusieurs fois se poser la question ici dans cette émission. Et alors on a des éléments de réponse, je pense. Alors même si on n'a pas d'outils sérieux pour mesurer l'identification des gens au rappeur ou comment les gens prennent au second degré, voilà, il n'y a pas vraiment d'outils qui existent.
Non, c'était une impression.
Exactement.
Donc que nous partageons.
On insiste sur le mot impression. Voilà, c'est subjectif. On essaie de pas tomber dans les clichés, voilà, du mec jogging, racaille, grappe. On essaie de pas tomber là-dedans, de regarder, d'utiliser, voilà, nos sens.
Pas aller trop vite dans la catégorisation.
Exactement. Et donc, ce que nous avons vu, c'est que le public s'identifie pas mal à Caris. Il s'identifie même très bien à Caris.
C'est-à-dire une écoute, pour la plupart, on pense au premier degré, en fait.
Exactement. Ou même si c'est pas au premier degré, c'est pris au sérieux, on va dire. C'est pris de façon non reculée, enfin sans recul. Et ça se voit. Ça se voit pas mal. Enfin, je pense qu'on l'a vu.
Ouais, notamment l'invectivation contre la police.
Exactement. Il y a eu plusieurs épisodes d'invectivation dans ce spectacle.
Entre les chansons, il se doit, hein, comme tout rappeur en concert, de mettre un peu d'ambiance, etc. D'ailleurs, moi personnellement, j'ai trouvé assez moyen sur ça, assez faible. On va peut-être y revenir. Mais entre autres, entre deux chansons, il a parlé de la police. Est-ce que vous voulez raconter, monsieur le doc?
Alors, si vous voulez, je peux raconter. Je vais essayer d'être le plus précis possible. Il a ramassé au premier rang un bloc de substances illicites donné par un de ses fans. Et donc, pour le remercier, il scande devant le public. Alors, il dit déjà qu'il a reçu donc cette petite plaque de morceaux de shit, voilà. Et il dit donc, s'il y a des flics dans la salle, niquez vos mères, bande de fils de pute, on vous emmerde, avec un gros bras en l'air, comme pour leur dire, voilà, je leur mets bien profond. Et évidemment, tout le monde lève le majeur en l'air et scande, fuck la police, machin, t'as trop raison, Caris, t'es le meilleur. Et voilà, donc, première activation, que tu es beau, exactement. Donc ça, c'était la première activation qui nous a un peu, voilà, on s'est dit, bon, voilà, la police, le rap et tout, pourquoi pas? À la limite,
oui,
ça nous dérange pas dans un concert de rap.
C'est un univers qui, oui, c'est, oui.
Voilà, de son temps, NTM chantait Nique la police aussi, et tout le monde scandait sans pour autant être forcément contre l'ordre.
Et là, ce que j'ai trouvé bizarre, c'est qu'il dit carrément, s'il y a un flic dans la salle.
Oui, c'est vrai.
Il s'en prend directement à son public.
Oui.
Et ça, c'est un peu bizarre.
Oui, c'est vrai, parce que c'est comme si il voulait une émeute, à la limite, dans son public. Un rejet de, s'il y a des fans qui sont policiers, il faut les rejeter. Il faut leur niquer leur mère.
Ouais.
C'est assez violent. Mais bon, ça fait partie du personnage. Mais la pire invectivation, je crois que c'était au moment de son morceau Tripoli, qui est son nouvel album, qu'on ne connaissait pas du tout, du coup, où il répète pendant, alors je sais pas, peut-être une minute, le nom Kadhafi.
Kadhafi.
Et à la fin, voilà, Kadhafi, il nous dit clairement, Kadhafi, c'est mieux que Hollande, hein.
Ouais, alors là, on n'a vraiment pas compris le délire.
Exactement.
On n'a pas compris si, déjà, qu'est-ce que ça foutait là. Enfin, déjà, cette chanson Tripoli, elle est très bizarre. On l'a réécoutée au calme après. Bon, c'est Tripoli, il en parle pas finalement. C'est encore une accumulation de punchlines.
Exactement.
Et on sait pas pourquoi il parle de Tripoli finalement. Et d'ailleurs, dans la chanson sur YouTube, la chanson version album, il parle pas de Kadhafi.
Il le dit deux fois juste, je crois, dans la chanson.
Ouais, il le dit, ouais, il l'évoque et voilà, il s'appesantit pas dessus. Et alors, par contre, dans son concert, il en a fait des tonnes sur Kadhafi. Alors,
avec Kalash, évidemment, les signes d'armes, les signes, tout ça, de violence. Et donc, du coup, pour revenir à l'invectivation, la réaction des gens devant cette mini punchline, Kadhafi, c'est mieux que Hollande, était plutôt favorable à, enfin, le public était plutôt favorable à ça, scander le nom de Caris, voilà. Donc, on a vu des invectivations vraiment, et un public qui suit tout.
Alors, ça, c'est très bizarre. Et d'ailleurs, on n'est pas d'accord, monsieur ALG et moi, sur quelle place faire à Kadhafi, ou, on sait pas trop. Moi, j'ai pensé que Caris faisait une blague très, très pourrie, complètement nulle. Enfin, on n'a pas trop compris, Kadhafi, c'est mieux que Hollande. Après, il a fait un gros rire. Moi, j'ai trouvé un gros rire forcé. Oh, genre, oh, mais qu'est-ce que c'est drôle, ce que je dis. Et voilà, et monsieur ALG l'a ressenti.
Oui, moi j'ai pas senti vraiment que c'était un rire forcé, j'ai plutôt pensé que c'était un rire naturel d'ailleurs, et que il était pas, je sais pas s'il était sérieux, mais en tout cas, il pensait pas la portée, il avait pas conscience de la portée de ce qu'il disait. Je pense vraiment qu'il pourrait le redire de façon tout à fait normale, sans vouloir faire une blague. Voilà. Mais après, on n'a pas de moyen de savoir vraiment. Il faudrait lui demander, l'inviter.
Grave.
Oui, ça serait sympa pour décortiquer peut-être ses punchlines, pour décortiquer tout ça, savoir ce qu'il pense vraiment sur Kadhafi, sur la politique et tout ça. Peut-être que ça pourrait être intéressant.
Mais la question aussi, c'est est-ce qu'il pense finalement quelque chose? Mais après, on verra qu'il faut peut-être pas le prendre trop pour un con non plus.
Exactement,
hein.
Exactement.
On peut s'y brûler.
Voilà.
Donc. Après, sur ça, donc la question de l'identification du public et du second degré, on tire la conclusion globale que son public, en tout cas ses fans, ceux qui se rendent au concert, hein, parce que c'est pas les mêmes, enfin voilà, au concert on était 200-300, on n'était pas 16 millions comme son nombre de vues sur YouTube.
Puis en plus, il faut être assez fan pour pouvoir payer le billet.
Ouais, qui est cher pour ce que
qui
c'est.
Qui est très cher, oui, pour ce que c'est, parce que là, je pense qu'on peut en parler maintenant. On a aussi trouvé que le concert était presque une escroquerie.
Ouais. Au niveau du show, au niveau du show, le show c'est très, il y a pratiquement pas de show. Il, limite, il fait son album sur scène, entre les chansons, il fait ça va, ouais, bien, ou soit, ouais, la police, là, comme on a dit, ou soit il dit, ouais, j'aime bien ton t-shirt. Alors là, c'était le pire du pire, j'aime bien ton t-shirt, j'aime bien ta casquette, t'as vu, c'est moi dessus,
Oui, exactement, oui. En fait, il entrecoupait ses chansons par des petites phrases qui étaient, bon, pour nous, c'était.
Moi, je trouvais que c'était forcé, ces phrases. C'était vraiment pour montrer, ouais, regardez, je suis en concert, je vous parle.
Mmh. Et pour meubler un peu.
Ouais. Et voilà, et au niveau du show, ça valait pas grand-chose.
Oui, après, il y avait ses potes derrière qui essayaient de faire le show avec leur portable. Ils étaient tout le temps en train d'écrire des textos ou fumer des cigarettes.
À l'arrière de, ouais, c'est ça. Il était, ça aussi bizarre dans les concerts de rap. En général, on a un rappeur, le rappeur, voilà, titre. Et, en général, ses potes derrière qui font les bacs, qui bougent avec lui et tout. Lui, ses potes étaient derrière le DJ et, textotés, ouais.
Voilà, ne faisait rien. Regardez, il n'y a qu'à la fin qui jetait des bouteilles d'eau dans le public. Parce que oui, Caris boit de l'eau. Et ses potes boivent de l'eau d'ailleurs. Et au début, nous pensions d'ailleurs que, enfin, dans l'entrée, à l'arrivée de Caris, comme tous ses potes sont blacks, à chaque fois qu'il y avait un black qui rentrait, on croyait que c'était Caris.
Non, c'était pas ça. C'était pas juste la question de la couleur ou quoi. C'est que c'était un mec trapu pareil, avec le même genre de t-shirt, ouais, avec le même genre de lunettes de soleil et la même genre de barbe et la même casquette. Voilà. Le même truc sur la tête. Et donc, en fait, il était complètement camouflé. On a cru que c'était Caris qui entrait alors que c'était son pote. Ça, c'était, à mon avis, c'est une blague qu'ils font entre eux.
Oui, je sais pas. Si, bon, enfin, en tout cas, voilà, pour le prix, il a fait une heure de concert.
Pas une de heure, puis là, il a pas dépassé. Pas de rappel.
Pas de rappel, oui. Il s'en va. C'est fini. Il dit merci.
Il dit aller acheter l'album.
Oui, c'est ça. Et en plus, il nous dit, enfin, le début du concert est à 19h30. Avec une première partie qui n'en est pas une, en fait. C'est juste un DJ qui passe des sons à l'américaine avec des basses.
Ça, dans quelle mesure est-ce que c'est la faute de Caris ou la faute de la salle qui organise l'événement? Je sais pas.
Peut-être que Caris peut produire des gens. Enfin, même, je pense que de toutes les façons, ça peut être sa faute puisqu'il peut, exiger une première partie digne de ce nom.
Ouais, c'est possible.
Et produire des jeunes artistes. Je pense que dans Lyon, doit y avoir des talents quand même. Lyon est une grande ville.
Eh oui, mais il ne produit pas les rappeurs lyonnais.
Voilà.
Non, c'est vrai, c'est pas faux.
Donc mais la première partie, DJ, en plus.
Une première partie expansive qui a duré 2h30, plus de 2 fois et demie le temps du concert même.
Voilà. Donc on a payé notre place pour écouter un DJ avec des grosses basses.
Ouais, énorme.
Qui mettait du YouTube. Je sais pas s'il mettait du YouTube, mais en tout cas, il mettait.
Ouais, c'était
sons
pas énorme là.
Kanye West, Wiz Khalifa, bon voilà, les sons, entre guillemets, commerciaux.
Ah, et nous reviendrons sur ça.
Nous reviendrons sur ça, exactement.
Donc, on peut peut-être conclure sur le bilan du concert de Caris. Non. Peut-être une dernière chose pour dire que quand même, peut-être que ce que vient rechercher le public et sur que ce quoi on n'a pas été déçu, c'est une certaine forme de violence, voilà, du son. De Caris sur scène, il est quand même assez mobile, il bouge beaucoup, voilà.
Oui, c'est vrai, parce qu'à nous écouter,
on a pas mal défoncé le truc.
Oui, on peut penser qu'on critique et qu'on n'a pas trop aimé, alors qu'en fait, on s'est amusé, on a passé un bon moment parce que on a beaucoup rigolé de ces punchlines.
Ouais, y a ça.
On a retrouvé le Caris, voilà, il nous a pas déçus sur scène. C'est-à-dire que sa prestation nous a pas déçus.
Lui-même, après son show, ensemble, voilà, je le trouvais très moyen, très léger, en fait. On sent qu'il n'y a pas un investissement très poussé. Mais après, voilà, il dégage de l'énergie, de la violence, et c'est ce que vient chercher son
public. Et ses chansons collent très bien, d'ailleurs, à la scène, par les basses, par la violence. Enfin, quand on dit la violence, c'est pas l'incitation à la haine. C'est une forme d'agressivité,
qui peut se tourner vers rien du tout.
Voilà, au second degré. C'est-à-dire, c'est comme une motivation, on va dire ça.
Oui, c'est ça, ça donne envie de taper, mais dans un mur ou dans un punching ball, pas
peut-être
collègue.
Pas forcément de taper, moi j'ai pas du tout eu envie de taper, mais bon, juste de bouger. En même temps, c'est le principe de la trap musique aussi, c'est un peu enfin, peut-être qu'on le développera un peu plus tard, mais bon, c'est le fait de bouger un peu sur soi, de par les basses, de par la musique, de par les punchlines, de par les chutes. Enfin, punchline d'ailleurs qui veut dire chute, vous allez nous l'expliquer en anglais. Mm-hmm. De par les chutes, de par le rythme, le tempo, comme vous avez parlé avant avec Alexandre Birat, la semaine dernière.
Chirat.
Chirat, oui, exactement. Pardon, s'il nous écoute, je m'en excuse. Enfin bon, voilà. Donc, du coup, nous n'avons pas été déçus. Nous avons passé un bon moment. S'il y avait plus de show et si le spectacle avait duré plus longtemps,
j'aurais peut-être mérité le prix qu'on a payé.
Oui, encore, et encore, et encore.
Et encore. Monsieur ALG, ne lâche pas son argent facilement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, hein. On va quand même écouter un son de Caris, hein.
Voilà.
Alors voilà, je m'excuse un peu pour les auditeurs de Radio Canut qui n'ont pas l'habitude d'écouter ce genre de son, qui peuvent être très réticents vis-à-vis de certains propos sexistes, machistes tenus, et c'est vrai que c'est des chansons sexistes. Et que d'ailleurs, ce ne sont pas les positions que défendent la radio, et ça, moi, je m'inclus totalement dans les mouvements qui dénoncent le sexisme, etc. Mais bon, là, on dit qu'on fait une écoute au second degré, exactement, juste pour voir de quoi on parle.
Et justement, le but, c'est un peu de donner les outils aussi pour prendre du recul envers ces paroles et de pas les prendre au premier degré, même si on ne motive pas les gens ou on ne conseille pas les gens d'écouter ça, mais plus s'ils les écoutent, de pas le prendre au premier degré et de prendre du recul. Voilà.
Parce que d'ailleurs, lui-même, la question, là, c'est, on voit son public, on a dit son public s'identifie, peut-être que son public le prend pour la majeure partie au premier degré, malheureusement, mais lui-même, finalement, on sait pas à quel recul il a vis-à-vis de son personnage.
Le sait quand même, parce que dans les interviews, il dit que c'est de l'entertainment, pour plaire,
ça n'a, en fait, ça n'a aucune portée politique.
Lui-même dit que c'est du divertissement quand on lui reproche, voilà, pour lui.
Pour lui, ça n'a pas de portée politique, et justement, il fait pas de la politique, et ça, c'est beaucoup
de rapports qu'ils
le disent, même s'ils en font finalement en creux. Mais eux, ils ne le revendiquent absolument pas. Donc voilà, on va s'écouter Magnum de Caris.
Rien n'est jamais acquis, rien n'est abouti. Je dois encore les traquer comme des agoutis. Le flou est prodigieux et intemporel. Je mets de l'eau dans tes yeux et sur l'aquarelle. Je joue pas en guerre comme Marc Aurèle. Zéro sera ta température corporelle. Je suis pas venu mettre le doute dans ta tête. Je veux juste mettre du foot dans ta chèque. Je suis dans tous les virages comme la dame blanche. Même les traits d'humour sont à la crêpe blanche. Grosse disquette dans toutes les deux fins. Ma chèque sur tes dents devant. Mon argent me dit qu'ils veulent me plumer. Mon tocaref me dit qu'il faut les fumer. Incontable comme un camère. On est instable, on fait des AR. T'aimes pas, bah va niquer ta mère. T'as rien dans le bide même après le scanner. Tony ne voulait pas mourir, cuisseau. Mani voulait pas mourir, puceau. Rose bicolore, je sors du zoo. Le son est si lourd, tu changes de fuseau. Magnum, 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 357 Magnum, 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 litron de sirop Magnum, 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 Porsche Cayenne turbo Magnum, 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 avale ma classe comme un Magnum. J'suis dans le carré, bande d'enculé. 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 Avec mon 357 Magnum, avec mon litron de sirop Magnum, les clés du Porsche Cayenne turbo Magnum. Avale ma glace comme un Magnum. Pour le bien de tous, faut que j'ai colère. J't'arrache des tatouages avec mes molaires. Tu veux résister, tester, tant pis. J'vais t'enterrer avec la mer à Bambi. J'aime le bruit entre les potes, le silence entre les notes, les grosseurs des poussiériotes. Je les mange en papillotes. Je suis venu pour enquiller. Tu veux être avec les chantiers. Je suis d'amour, c'est plein de billets. J'me gare sur les pointillés. Je suis toujours le premier à l'allumage d'un grand ouange.
et je serai le dernier, à l'exception des grands singes. 2-7, Magnum, Magnum, 357, Magnum, Magnum, litron de sirop, Magnum, 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 Porsche Cayenne Turbo, Magnum, Magnum, avale ma glace comme un Magnum. J'suis dans le carré, bande enculé, j'suis dans le carré, bande enculé, j'suis dans le carré, bande enculé, j'suis dans le carré, bande enculé. Avec mon 357 Magnum, avec mon litron de sirop, Magnum, les clés du Porsche Cayenne Turbo, Magnum, avale ma glace comme un Magnum.
Radio Canu, rap, littérature et révolution du son. Yes, 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 vous écoutez toujours Montaigne Oiseteug sur Radio Canu. Alors avec cette émission dont on n'a pas encore dévoilé le thème secret et qui a commencé par une évocation du concert de Caris auquel nous nous sommes rendus en compagnie de mon invité du jour, ALG aka le Doc. Et donc le thème du jour que je vais dévoiler aujourd'hui, ça va être de réfléchir sur la punchline. Qu'est-ce que c'est qu'un rap de punchline? Qu'est-ce que c'est que la punchline iceberg, le concept de monsieur ALG tout fraîchement inventé, qui est très très utile pour analyser le genre de rap comme Caris. Donc Caris a fait office de très bonne entrée en matière. Et là désormais, on va revenir, désolé, on va encore parler de Caris encore une fois parce qu'il faut lui rendre justice. J'avais fait il y a 2 ou 3 mois une émission en compagnie de mon compère Paul Bismuth sur la question du rap et du second degré. Et nous avons parlé de la chanson Sevrac de Caris, où Caris avait cette punchline. Alors, monsieur ALG, peut-être qu'on peut dire ce que c'est maintenant qu'une punchline.
Ah, la définition de punchline?
Oui.
Ah bon, il y a tout un tas de définitions, mais nous, ce qu'on entend par punchline, c'est une phrase agressive, violente, motivante, courte, qui permet d'avoir un impact direct sur les auditeurs, sur les personnes qui écoutent, qui permet de créer une chute, puisque c'est aussi le terme...
La punchline peut comporter une chute, mais il n'y en a pas forcément.
Oui, mais c'est la définition en tout cas.
C'est le vrai terme en anglais. Punchline ne signifie pas un terme uniquement dans le rap, ça veut dire chute en soi, et donc ça peut aider à comprendre.
Voilà, donc ça peut choquer, mais justement, le fait de choquer est recherché par ces rappeurs. Donc voilà, si vous avez été choqué par la musique d'avant, sachez que c'est recherché par Caris, c'est exactement ce qu'il veut. C'est voulu. Donc voilà, n'ayez pas peur, ce n'est pas un monstre, c'est juste quelqu'un qui cherche à choquer comme ça pour faire vendre, pour qu'on parle de lui, comme on le fait maintenant.
Donc il a bien réussi.
Donc voilà, il a bien réussi. Et donc pour revenir sur la punchline, lui il les utilise très bien, car vous voyez, il utilise vraiment tout ce qu'on a décrit. C'est violent, c'est choquant, c'est court, c'est concis. Et puis surtout, ça attire l'attention. Il y a une voix qui est agressive, il y a une voix qui est lourde. Il y a souvent des...
Voilà, même la basse qui commence en même temps que la
exactement,
punchline.
Exactement, voilà, ça
boom,
pose
basse
sur,
et début de punchline.
Oui, et puis les syllabes aussi sont simples. Les mots sont très simples à comprendre, à entendre. Voilà, donc tout est fait vraiment pour capter l'attention facilement et directement.
Et dans ce vrac, Caris avait cette punchline qui répétait plusieurs fois dans le refrain et qui était « Salope, on a assez travaillé pendant l'esclavage ». Alors Paul Bismuth et moi étions totalement décontenancés par cette punchline, on comprenait pas du tout ce qu'il fallait y voir. Et d'ailleurs, je vais repasser le petit morceau de l'émission où Paul Bismuth parlait de sa compréhension. Hein. Il avait vu le texte comme un objet clos, il ne savait pas qui était vraiment Caris ou pas, ou ce qu'il pensait, et il avait dit en tant que récepteur, en tant qu'auditeur lambda, qu'est-ce qu'il pouvait penser de cette punchline saisie comme ça uniquement dans le cadre de la chanson. Donc on va écouter Paul Bismuth, cette émission d'il y a 2-3 mois.
Cette façon d'être porte-parole est complètement inappropriée dans le cadre de la chanson, c'est-à-dire que ça... Ça semble très étrange au premier degré. Alors encore une fois, voilà, au premier degré, ça ne semble même pas acceptable en fait de rapprocher ces générations d'esclaves qui ont souffert avec le cri de quelqu'un qui serait là à dire bon bah c'est bon, on a travaillé. Je prends la douleur de ces gens-là que je n'ai pas connus, le meilleur travail de mémoire à leur rendre, ça n'est pas de faire une chanson comme ça à mon sens, mais justement de militer, de réfléchir, de s'engager dans des causes et non pas voilà, agir de cette façon.
Donc voilà, c'était Paul Bismuth qui réagissait à la punchline de Caris, salope, on a assez travaillé pendant l'esclavage. Alors évidemment, on comprend, enfin moi je comprends tout à fait la réaction de Paul Bismuth.
Très bonne
à l'époque.
Réaction d'ailleurs, et c'est d'ailleurs, très pertinent.
Oui, et d'ailleurs je partageais ce qu'il pensait, je comprenais pas non plus. Je me disais, qu'est-ce qu'il fait, Caris, il se met à la place de disons entre guillemets ses ancêtres esclaves, parce que bon, on ne sait pas si ses ancêtres ont été esclaves, ses ancêtres, bon ils étaient noirs, mais tous les noirs n'étaient pas esclaves non plus. Donc voilà, il se mettait à cette place-là et il disait, on a assez travaillé pendant l'esclavage, comme si il avait plus envie de travailler maintenant parce que ses ancêtres avaient travaillé, donc on ne comprenait absolument pas ce que ça voulait dire. Et donc Paul Bismuth avait très bien expliqué ce qu'il en pensait. Et depuis, grâce à ALG,
c'est pas vraiment grâce à moi, c'est grâce à une interview.
Oui, mais c'est grâce à vous que moi j'ai eu accès à cette interview, on va dire. On a pu comprendre véritablement ce que voulait dire Caris dans cette punchline, qui est une punchline iceberg, selon la définition qu'on donnera après l'écoute de l'interview monsieur ALG. Donc on va écouter le passage de l'interview avec Mouloud Achour, ou dans Click, sur Click, où Caris en fait explique cette punchline.
Oui, juste le son est pas terrible parce qu'ils sont dans un kebab, donc on va peut-être répéter les choses qui sont pas très bien entendues,
clarifier tout ça.
Eh, pour les trois.
Elle t'est sortie d'où la punchline? Salope, on a assez travaillé pendant l'esclavage.
On a assez travaillé pendant l'esclavage, salope.
Sorti de Guerlain.
De Guerlain?
Moi, je suis pas maté, je paye la redevance. Et je vois un mec à la télé qui dit, mec, on n'est pas assez travaillé pendant l'esclavage, ou un truc comme ça.
Pour une fois, je me suis mis à travailler comme un nègre. Je sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé, mais enfin, ça...
Et la présentatrice, elle rigole.
Nègre.
Elle rigole, la meuf. Je suis obligé de le dire. Ça a mis du temps, mais je l'ai dit. Tout le monde devrait indigner contre ça.
Donc voilà, la bouche pleine de kebab. Caris nous explique sa punchline. Alors monsieur LG, peut-être vous voulez clarifier un peu cette écoute qui n'était pas forcément bonne.
Oui, en fait, il nous dit qu'il se réfère à l'affaire Guerlain, qui est en fait une affaire, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça une affaire, mais il était invité au journal de 13h.
Ouais, monsieur Guerlain, donc...
Voilà, monsieur Guerlain, qui était PDG, fils du créateur des parfums, voilà, donc avec toutes les pubs qui passent à la télé. Enfin, bref.
Guerlain.
Exactement. Et donc en octobre 2010, me semble-t-il, voilà, il est passé au journal de 13h et la présentatrice, voilà, madame Lucé,
Élise de son
prénom, Lucé, voilà. Qu'il a reçu, et donc il a dit cette phrase, voilà, j'ai travaillé comme un nègre, mais je sais pas si les nègres ont toujours travaillé. Et là, la présentatrice rigole, ce qui a fortement énervé monsieur Caris, qui a voulu en faire un morceau.
Voilà.
Et donc cette punchline se réfère en fait à ce passage, et il dit d'ailleurs dans l'émission, tout le monde devait être indigné contre ça. Et donc pour ça, voilà, on est plutôt d'accord. Donc ça revient aussi sur le fait qu'on disait tout à l'heure qu'ils font aussi un peu de politique, même sans vouloir en faire. Et ils ont aussi une portée. Alors voilà, si le message de Caris est celui-là, il est peut-être mal dit, la forme est peut-être mauvaise, mais on ne peut qu'approuver le fond.
Et toute la question est dans la forme, en fait, parce que en fait le problème de cette punchline, c'est que si on n'a pas les éléments, si on n'a pas les prérequis, on comprend pas. Et finalement, on fait une contre-interprétation, une Exactement. Mauvaise interprétation, comme on avait fait à Mountain Was the Thug auparavant. Et
c'est justement la définition de la punchline ego trip, la punchline iceberg, qui est donc une appellation que j'ai trouvée pour désigner ce genre de punchline qui demande un prérequis, qui demande une connaissance nécessaire à la compréhension de la punchline et qui désigne quelque chose de plus élargi, de plus profond que la forme qu'il a, enfin que la forme de la punchline, que l'impression, la première impression que l'on a sans les connaissances, exactement comme cette punchline. Donc on en a d'autres, on en a cherché quelques-unes.
Oui, mais ce que je voulais, si vous voulez réagir sur ce que vous venez de dire, le problème de la punchline iceberg, c'est que ça demande soit de connaître précisément ce dont le rappeur est en train de parler. Alors des fois c'est plus ou moins facile, hein, parce que c'est plus ou moins connu ou pas, mais même, enfin moi je ne connaissais pas l'affaire Garlin, je sais pas si vous connaissiez.
Non, pas du tout.
Et mais bon, imaginons que ce soit quand même relativement connu, parce que c'est quand même des personnages importants, le JT de 13h sur la 2. Donc imaginons que ce soit relativement connu. Caris, même quand il l'évoque, on a pratiquement aucun moyen de savoir qui se réfère à ça. Même si on avait connaissance de cette affaire.
Oui, ça fait partie du mystère autour de ces punchlines iceberg, c'est-à-dire que ça entraîne la recherche, ça entraîne l'intérêt pour ce genre de musique, parce que du coup, nous, après, on s'est porté un peu plus sur ces musiques pour savoir s'il y en avait d'autres. On s'est porté, ouais, ça a changé notre image. Changé notre image, peut-être pas, mais ça nous a conforté dans le fait qu'il n'était pas si idiot qu'il en avait l'air.
Qu'il en avait l'air, ouais. C'est pas faux.
Donc, du coup, c'est à son avantage.
Ouais, pour le coup, oui. Complètement. Et ouais. Et donc alors, punchline iceberg, c'est pas Caris qui l'a inventé. Hein.
Bien sûr que non.
Il y en a plein dans le rap de tout temps. On en a relevé quelques-unes. Hein. Donc peut-être dans Jimmy Punchline qu'on va passer après, il y en a une, mais peut-être qu'on va parler avant de
par exemple, Solar.
Ouais, d'MC Solar. Puisque bon, MC Solar, on a fait aussi des émissions sur lui, une émission sur lui à Mountain Was The Tag. C'est un peu mon rappeur fétiche personnellement. Et lui, il a un rap qui est plein de références. Et dans sa chanson Le Nouveau Western, il a cette punchline. Parce que voilà, le Nouveau Western, c'est une chanson contre les States, enfin l'ultra-capitalisme américain et toutes ces choses-là. Et alors il dit Hollywood nous berne, donc nous berne du verbe berner en français. Et après il répète en écho Hollywood burn. Donc enfin il dit burn, mais on comprend burn. C'est voilà, c'est pas très clair. Il est entre les deux. Il joue sur ça, sur ses sonorités. Donc Hollywood burn, en fait, c'est une référence à une chanson de Public Enemy, tout simplement Hollywood burn, qui est également aux États-Unis dans les années 90, une critique de l'ultra-capitalisme américain. Donc voilà, cela, si on n'a pas par exemple le prérequis, enfin la connaissance de la chanson de Public Enemy, on ne peut pas avoir accès à la totalité de la signification de la punchline.
D'ailleurs, dans toute la chanson, il y a beaucoup de punchline et ego trip. Une chanson qu'on vous recommande d'ailleurs, Nouveau Western.
Ego trip? Non, Iceberg.
Iceberg, pardon, excusez-moi à tous. Punchline Iceberg. Dans cette chanson qu'on a failli passer d'ailleurs, qu'on a voulu passer, mais on a préféré la chanson d'Orelsan.
Ouais, parce que ça va nous permettre de rentrer plus en détail sur qu'est-ce que la punchline, sans rester dans la punchline iceberg. Alors par exemple, on peut parler de la punchline iceberg d'Orelsan dans le morceau qu'on va vous passer qui s'appelle Jimmy Punchline. Et la punchline iceberg est celle-ci: j'écris des trucs à l'entre de bananes, et après il y en a en écho, pas la voix d'Orelsan, mais on a la voix de George Clooney en fait, qui fait what else, comme dans la pub Nespresso. Et donc en fait, ça fait référence tout simplement parce que l'encre de banane, la banane, c'est une chanson qui rentre dans la tête. Hein. Nous, on savait pas, on a appris ça.
C'est un jargon en fait dans la musique.
Donc la banane, j'écris des trucs à l'encre de banane. Donc en fait, j'écris des trucs qui rentrent dans la tête. What else? En fait le slogan Nespresso, Clooney machin. What else?
Oui, ça fait aussi référence à l'encre de citron que on ne remarque. Enfin, c'est l'encre dit invisible qu'on ne voit que en
chauffant.
En mettant sous une bougie ou un briquet. Donc je pense que ça fait référence à ça aussi, l'encre de citron. Donc il dit l'encre de banane, c'est-à-dire que c'est un encre qui entre dans la tête à défaut d'être invisible.
Il y a un double sens, et du coup ça retourne un peu. L'encre de citron, l'encre de banane, ce serait l'inverse, ce serait l'encre de la chose qui est ultra visible.
Exactement, oui.
Et même visible malgré soi.
Voilà, et donc le what else rentre aussi dans la tête, c'est pour ça que ça vient juste après.
Donc voilà, on va se passer le petit Jimmy Punchline.
Hey, pour les 3 prochaines minutes, je veux qu'on m'appelle Jimmy Punchline. Oh, C'est le retour de la légende de Jimmy. Même si je peux craquer à tout moment comme les jambes de Djibril. 2008, je lance le missile. Si t'écoutais pas de rap en 98, change de vinyle parce que je kick la prod à l'ancienne. Nique la mode, je viens kicker comme quand je kickais pour démarrer ma vogue. Cherche pas de message dans mes faces, dans mes métaphores. Je fais ça pour le plaisir parce que je trouve que je déchire. Oh, je représente le 7. J'écris des textes tirés par les cheveux comme ta meuf en levrette. Je crache le feu sur ta bande de traîtres. C'est le remake de Sodome et Gomorre, un holocauste sonore. Je suis trop gore pour le grand public. De toute façon, je m'en branle des victoires de la musique. J'use les hot dogs. Tous les jours, je me couche aux aurores. Et je pars au taf avec une gueule d'enterrement comme si j'étais croque-mort. Je suis les Beatles pour les jeunes ados. Je pourrais passer sur Sky même si mon single s'appelait Fun Radio. Je crache dans tes règles, ça fait ketchup mayo. Je te baisse sur un tas de boîtes, attrape une syphilis de derrière les fagots. Je distribue des CD dans l'hexagone pendant que tu distribues tes CV dans les McDo. Alors je comprends que tu voudrais faire un feat, mais moi je voudrais un Big Mac et une grande frite. Et ça fait un pour mon estomac, deux pour ma bite. Passe Normandie 14 000, tu sais où j'habite. Jimmy, 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 viens doter la vie. Je t'envoie en chimie, chimio, chimiothérapie. Oui c'est gratuit, je suis bête et méchant. Si je dois mettre des gants, je t'arrache la jugulaire avec les dents. Et quand on fait la fête, c'est tes parents, ça part en tapage nocturne. On fait tourner le cul de la vieille alors que personne fume. Laisse-moi prendre ma respiration. Je vrai sponde sur MSN, tout le monde prend mes citations. Trouve-moi en pleine méditation, dans un débit de boisson. Ma gueule de bois ferait passer Pinocchio pour un vrai petit garçon. J'écris des tubes à l'encre de banane. Je t'enfile des trucs via l'encre de ta femme. T'arrives à rapper super vite, pas mal. Mais si t'as du flow et pas de parole, tu seras jamais plus fort que Scatman. T'aurais dû arrêter le rap au lieu d'arrêter l'école. T'aurais dû lâcher la musique au lieu de lâcher des coms. J'ai un truc énorme entre les jambes comme un contrebassiste. Aussi vrai que t'es pas français si t'as pas un oncle raciste. Je débarque comme un tsunami. Tu vois défiler, défiler, défiler toute ta vie. Ou de la lit, je te fais passer sous le baby. Ton équipe fait pitié comme un orphelinat en Roumanie. Je rappe sous Tipon chez les ladies, bouge en Rounani. Arrêtez de mouiller. J'ai l'impression de baiser sous la pluie. J'arrive tête de gondole, texte de mongole. Tu bouges ta bête de coupe au vol. Avec ma petite copine, on se pète la tête au jeans. Je la baisse complètement tête comme si j'étais nécrophile. Je la trompe que dans les autres villes, ça compte pas. Haltérophile sexuel, soulève des meufs qui font deux fois mon poids. Je traîne avec des futurs médecins et des ex-tolars. Scredi Kruger à la prod et je suis ton pire cauchemar. Gringer, Scred, c'est Baudelaire et Mozart. Abla, il va te refaire le portrait et il a jamais fait les beaux-arts. Je vénère les femmes à tête de chienne comme les Égyptiens. Je déteste les traps depuis que j'ai Faïken, un brésilien. Continue de rapper des mythos, tu le fais si bien. Tu parles de douille et de plomb, mais t'es électricien. Bref, si t'as des couplets de merde, bosse sur frein. Si c'est ça le rap game, je dois être le boss de fin. Si tu veux pomper Saint-Valentin, commence par avoir des rapports. Puceau, t'as du mal à baiser ta propre main. Dans la nouvelle scène, je suis le seul qui sort du lot. Je suis seul écrivain potable depuis Victor Hugo. Je marche sur l'eau, je nage sur le bitume. Et ça fait 3 minutes, Jimmy Punchline, 7ème magnitude. Jimmy Punchline. Jimmy Punchline. Jimmy, j'suis la définition du mot punchline. Jimmy Punchline. Punchline.
Yeah, que de punchline à monter une oiseau thug. Aïe, aïe, aïe. Donc, voilà, cette chanson d'Orelsan, elle est intéressante parce qu'elle nous permet de cerner avec précision ce que c'est que la punchline. Hein. Alors, spécificité des punchlines d'Orelsan, très axée sur le sexe. Hein.
Parce que, très dégueulasse.
Parce que oui, parce que bah, le sexe a forcément un caractère choquant quand il est sali, voilà, sali à l'extrême comme il le fait. Et donc, forcément, ça va bien pour faire des punchlines, de balancer des trucs dégueulasses sur le sexe. Après, ce qui est intéressant de dire, c'est que Orelsan, à la différence de Caris, pour faire une chanson de punchline extrêmement dégueulasse, finalement, il prend un nom de code. Il incarne un personnage qui n'est pas lui, qui n'est même pas son personnage d'habitude, son personnage de loser. Il prend le personnage du rappeur trop fort, qui est contraire, oui, qui est contraire au personnage qu'il utilise d'habitude, qui est, oui, moi je viens de le dire, un loser. Mais et donc c'est, ça montre bien cette volonté de se situer à distance de ses propos, de dire c'est pas moi qui dis ça, c'est le personnage de Jimmy Punchline qui est aussi dégueulasse et qui est là à balancer ses punchlines. Donc voilà, on a bien cerné ce que c'était que la punchline avec ça, je pense.
Exactement, oui, je suis d'accord avec vous, totalement.
Et donc, alors on peut continuer sur notre analyse de ce rap de punchline, hein, parce qu'aujourd'hui, un des reproches, entre autres, qui est fait par, entre guillemets, certains puristes du rap, au rap actuel, c'est que c'est un rap de punchline. Alors qu'est-ce que ça veut dire, un rap de punchline, monsieur Samadi, pour vous?
Pour moi ou pour nous, tout simplement, un rap à punchline, en fait, c'est un rap qui ne contient quasiment que ça, que vous l'écoutez à la première minute, à 1 minute 30, à 2 minutes, à 2 minutes 30, 3 minutes, vous aurez toujours des punchlines, un flow continu de punchlines, et vous aurez pas besoin de connaître le début de la chanson, car il n'y a aucun fil rouge, il n'y a rien, rien ne se tient.
Pas d'unité de sens, en fait.
Exactement. Alors peut-être que ça contient les mêmes thèmes, mais le thème à la première punchline qu'on entend, on peut le deviner. On n'a pas besoin d'écouter la chanson en entier.
Bah, le thème, il y en a pas, en fait.
Voilà, le thème, il y en a pas. Mais des fois, il y a les mêmes thèmes. Par exemple, bon, dans McDom qu'on a écouté avant, ça tourne un petit peu autour de la boîte du McDom et tout, même si ça part un peu dans tous les sens, on est d'accord. Mais dans Jimmy Punchline, c'est un peu pareil. Ça tourne un peu autour, voilà, du cul et tout ça. Bon, mais
pas
ça...
de thème majeur, ouais.
Voilà, exactement, pas de thème majeur,
c'est ça, oui, le rap de punchline.
Donc voilà, un rap à punchline, c'est un rap qui ne contient quasiment que ça, sans réelle structure, sans réel thème, sans réel fil rouge.
Et du coup ça, est-ce qu'un rap de punchline peut difficilement être j'ai envie de dire un rap engagé? Parce qu'il ne peut pas développer finalement un peu une pensée un peu complexe. Il ne peut pas avoir de réelle puissance, je pense. Enfin, je ne sais pas, c'est une question que je vous pose, monsieur ALG. Est-ce qu'on pourrait faire un rap engagé de punchline? Est-ce que ça s'oppose?
Moi, j'en connais un qui n'est pas vraiment du rap. L'homme pressé de Noir Désir. Mmh. Et un rock à punchline, on peut dire.
Je ne sais pas.
Mais, et plutôt engagé, mais...
Il y a quand même un thème.
Il y a un fil rouge. Il y a un fil rouge. Ouais. Il y a un fil rouge. Mais quand même, ça contient un enchaînement de punchlines. C'est dommage qu'on l'ait pas apporté, ouais, pour le faire écouter. Ça aurait pu changer d'ailleurs du rap habituel que l'on passe. Mmh. Mais vous pouvez l'écouter, vous, chez vous.
On peut se demander si c'est pas du rap, hein, l'homme pressé.
Mais oui, pourquoi pas. Mais le rap, c'est peut-être la façon de poser sa voix sur le son. Et l'instru, ça peut être du hip-hop, du rock, n'importe quoi. Donc ça peut être du rap, oui, du rap sur du rock. Pourquoi pas?
Bonne question.
Mais pour en revenir à la question, donc est-ce qu'on peut faire du rap engagé avec du rap à punchline? C'est très dur. Je peux pas dire.
Moi, je pense à Youssoupha et je trouve qu'il y a un rap de punchline.
Oui.
Mais qui pour autant revendique. Mais en fait, il a des punchlines qui tournent autour des mêmes thèmes. C'est ça que je trouve assez intéressant. Il va prendre un texte, je sais pas, la décolonisation, enfin l'anticolonialisme, et il va faire des punchlines pendant 3 minutes sur l'anticolonialisme. Donc du coup, il y a un thème, mais il n'y a pas d'unité de sens entre ces vers. C'est-à-dire le vers 3 n'est pas la suite du vers 2, etc., etc. Mais du coup, il y a un thème global dans son.
Oui, il y a besoin donc d'une structure pour avoir un minimum d'engagement. C'est-à-dire que pour créer un message, il faut un minimum de structure. Comme vous le dites sur Youssoupha.
Sur Youssoupha, c'est pas la structure, c'est le thème commun, en fait,
oui,
entre les vers.
Et donc il y a une base.
Oui, d'accord.
Une base sur laquelle
une structure de sens.
Exactement. Oui, c'est ça.
D'accord.
Donc il y a quand même besoin de créer un minimum de structure, de voilà, une unité, une certaine unité pour pouvoir passer un message cohérent. C'est sûr que dans ce vrac de Caris, là où il y a la punchline iceberg dont on parlait,
salope, on a assez travaillé pendant
exactement
l'esclavage.
Il n'y a que cette punchline autour de l'esclavage. À moins qu'on relise les lyrics où il y a peut-être une autre punchline, ce qui m'étonnerait.
Je pense pas, non.
Mais il n'y a aucune unité sur ça, donc il n'y a pas vraiment de message. Sauf sur la punchline, il n'y a pas vraiment de message.
Du coup, c'est d'ailleurs bizarre aussi. Peut-être c'est la faiblesse de ce rap, voilà, Sevrac, elle appuie pas plus sur l'anti-esclavagisme que finalement pratiquement aucune de ses chansons, juste parce qu'il y a peut-être un vers, mais c'est pas une chanson engagée.
Mais je suis d'accord, mais c'est la faiblesse, mais c'est aussi une force, puisque si c'était une chanson engagée, elle n'aurait peut-être pas 20 millions de vues ou 15 millions de vues sur YouTube.
Ah, je sais pas.
Je pense que son succès naît aussi de ce rap à punchline, du fait qu'elle n'a aucune structure, aucune unité, que c'est un rap facile à écouter, que c'est un rap, voilà, un rap à punchline.
Rap commercial, monsieur.
Alors la définition de commercial, on pourrait y revenir peut-être plus tard ou maintenant.
Je ne sais pas. Je pense que ça tombe un peu plus ou moins à pic. Non, mais tout simplement, est-ce que parce qu'aujourd'hui, ces mêmes gens qui déplorent ce rap à punchline, je pense, déplorent aussi une certaine commercialisation du rap. Alors je me demande, est-ce qu'il y a un lien?
Oui. Alors avant de parler du lien, peut-être que je peux finir sur Caris en disant voilà, c'est une faiblesse, mais c'est aussi une force, puisque ça permet de faire une musique, donc on va dire, on peut le dire maintenant, commerciale ou disons à grande écoute, pour maximiser l'audience et pouvoir faire passer des messages subliminaux à travers ces punchlines iceberg. Encore faut-il que on puisse savoir que c'est une punchline iceberg et aller chercher
ça,
quoi.
C'est un peu aller dans son sens. Non, c'est essayer de le justifier peut-être à tout prix.
Non, pas du tout. Pas du tout. Je veux pas justifier, absolument pas. J'essaie de voir un peu tous les axes de pensée. Même si moi, je suis d'accord avec vous. Il vaut mieux faire une vraie chanson avec une unité et un vrai message cohérent que faire une chanson un peu n'importe quoi et dire oui, mais il y a une petite punchline qui se réfère à ça, donc il y a un petit sens dans ma chanson, donc c'est pas de la merde. Non, je suis d'accord avec vous. Mais on peut aussi dire que c'est une force de se faire écouter de tous, d'avoir une si large audience.
Mais oui, c'est souvent la difficulté d'allier les deux. Et peu de rappeurs y arrivent, je pense, aujourd'hui. Et c'est ça qui fait dire la plupart du gens qu'aujourd'hui le rap commercial c'est pas vraiment du rap, parce qu'il n'y a plus cette force engagée, cette force revendicatrice que certains peuvent associer de manière nécessaire au rap, que le rap soit nécessairement engagé.
Alors chez Caris, elle y est un petit peu dans le concert, lorsqu'il nous dit à chaque fois, voilà, lorsqu'il nous invective, il nous dit la puissance, on va les baiser.
Donc ça, c'est engagé.
C'est engagé, sauf que c'est lui qui nous baise, en fait.
C'est pas faux, il nous baisse par le prix de sa place.
Et oui, de son concert. Bon, enfin, on va pas y revenir dessus. Mais on retrouve un semblant, un fantôme de revendication. Dans ses chansons. Mais évidemment, ce n'est pas suffisant pour créer un vrai message. Et...
Un fantôme de revendication, c'est pas mal, ouais, je pense. C'est une ombre qui plane sur le texte de Caris. Et qui, des fois, apparaît après lecture de ses interviews. Et...
Ouais, lorsque l'obscurité s'évade, il nous reste ce petit semblant de revendication, de côté rebelle que l'on a dans cette radio. Donc, on se raccroche à ce qu'on peut.
Tout à fait bien vu, monsieur ALG. Donc, du coup, pour revenir à la commercialité. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus?
Nous, on a pas mal réfléchi là-dessus et on a trouvé plusieurs dimensions que l'on peut associer au rap commercial, parce qu'on n'a pas réussi à trouver réellement de définition comme la punchline ou comme des choses simples. Là, ça nous paraît surtout être une expression populaire qui veut tout et rien dire.
Donc, une expression utilisée par plein de gens qui veulent pas forcément dire la même chose, peut-être aussi.
Donc nous, on a essayé de trouver des dimensions, des axes qui pourraient s'associer au rap commercial, ce qu'on dit rap commercial. Alors je pense que le premier axe, c'est l'accessibilité. C'est-à-dire qu'un rap commercial, c'est un rap qui doit être accessible à tous.
Est-ce qu'on peut commencer par dire, est-ce que c'est forcément péjoratif?
Alors oui, ça c'est une très très bonne question, parce que rap commercial, lorsque l'on entend, c'est très souvent connoté péjorativement. C'est très souvent péjoratif, c'est très souvent pour qualifier quelque chose d'inférieur, quelque chose qui n'a pas vraiment de valeur par rapport au reste de la culture musicale. Ou même, on peut dire, une musique commerciale, tout simplement. David Guetta est une musique commerciale, on l'entend très souvent. Donc c'est une musique, disons, inférieure dans son style dans lequel elle s'intègre. Donc peut-être que le rap commercial de Caris serait inférieur au rap.
Du sous-rap.
Exactement, une sous-rap, une sous-culture. Alors nous, on va peut-être essayer, alors je sais pas comment vous voulez en parler. Est-ce que vous voulez d'abord partir de l'hypothèse que c'est péjoratif et donc du coup développer là-dessus?
Oui, je pense que ça peut être pas mal de commencer par ça.
Très bien, mais de toute façon, le premier argument, je sais pas s'il contient cette dimension-là, le fait de dire que ce soit accessible. Alors, est-ce que parce que c'est accessible, c'est de mauvaise qualité? Je sais pas. Mais en tout cas, on dit d'une musique commerciale, qu'une musique est commerciale parce qu'elle est accessible à tous et parce que tout le monde peut l'écouter, donc elle est très populaire et donc les outils nécessaires à la compréhension de cette œuvre ou
à l'écoute
exactement. Sont données à tous. Les mélodies sont simples, les mots sont simples, les musiques, les notes, tout est simple. Ce n'est pas de la musique savante comme du Mozart.
C'est-à-dire qu'il faut pas avoir écouté beaucoup de rap pour pouvoir se mettre à aimer ce style de rap.
En fait, on peut aimer tous les styles de musique comme on aimerait ce style de rap commercial parce que ça contient un peu de pop, parce que ça contient un peu de, je sais pas moi, de guitare électrique.
Ce serait quelque chose finalement de sans caractère en fait.
Voilà.
Qui serait aseptisé.
Exactement. Voilà.
Et qui du coup serait accessible à tout le monde.
Voilà, donc on peut noter cette première idée d'accessibilité, d'universalité. La deuxième...
Le fait que ça se vend peut-être.
Oui,
il y en a qui disent c'est commercial, ça se vend, et donc c'est mauvais, parce que le rap ne doit pas se vendre, ne doit pas... Ou alors, on a cet exemple très souvent avec des rappeurs qui ont commencé dans l'underground, qui étaient pas connus tout simplement, parce que très peu de rappeurs commencent par être connus, ça n'existe pas même. Du coup, on commence forcément par être inconnus. J'avais un exemple tout con, Section d'Assaut. Section d'Assaut qui a fait du rap pendant 10 ans en underground avec des thèmes très street, même homophobe, c'est un rap qui pouvait se cacher, enfin qui pouvait encore se permettre d'être homophobe et tout parce qu'il était caché. Et non, mais l'homophobie, c'est bon, évidemment c'était on peut en faire le reproche quand on en fait le reproche à Section d'Assaut, mais c'est pour dire que voilà, il y avait un certain nombre de thèmes qui sont devenus tabous à partir du moment où ils sont devenus célèbres.
De fait de la bien-pensance qu'on développera peut-être. Mais oui, donc le fait que...
Bon, mais pas sur l'homophobie, parce que bon, on va pas parler de ça, mais sur, par exemple, tout simplement, Section d'Assaut a été bon, très anti-police, anti-machin, anti-truc, anti-tectonique. Ils ont fait une
chanson. Oui, mais il y a même des sujets dont ils parlaient pas. Par exemple, les handicapés, les orphelins, les machins.
Et dès qu'ils ont commencé à être, en fait, l'album où ils ont décollé, ils ont explosé finalement, c'est un album qu'on peut dire commercial, je sais pas, mais très grand public, très tout public en fait, qui s'adressait avec presque aucune insulte. Évidemment, l'homophobie, était cachée. Peut-être qu'elle existait toujours chez les membres des groupes. On a vu l'exemple avec Black M qui a tenu des propos, très condamnables à la radio. Mais tous ces thèmes ont été cachés, ont disparu. Oui. Plus de violence, finalement, plus de gros mots.
Donc là, en plus du côté universel, on a aussi le côté aseptisé et le côté bien-pensant, c'est-à-dire utiliser des thématiques qui sont plutôt connotées,
sont consensuelles.
Exactement.
Et qui sont traitées aussi de manière très très superficielle.
Totalement, oui. Il y a aucune analyse en fait à faire. C'est juste des mots, des petites phrases. La paix c'est bien, la guerre c'est mal, les orphelins sont tristes. La personne qui va le matin se lever à 7h est à plaindre.
Donc ce serait ça aussi le rap commercial. Ce serait un rap.
Qui contient des thématiques qui sont pauvres, qui
consensuelles,
sont pas développées
dans le mauvais
sens. Pas développées, qui restent au stade embryonnaire.
Et bien sûr, avec tout ce que ça peut avoir de paradoxal, de par exemple dire moi j'aime les orphelins et d'aller tous les soirs dans les boîtes à 3 milliards d'euros et claquer 400 balles dans un magnum.
Exactement, oui.
Voilà, tout ce que ça peut avoir de contradictoire.
Oui, exactement, oui. Et donc on n'a pas parlé aussi du rap qui se vend. Rap commercial peut aussi, enfin on pense souvent, on associe rap commercial à un rap qui se vend parce que ça passe à la radio, parce que c'est commercial, ça rentre dans le système des maisons de disques, de la publicité, de ceci cela. Donc c'est commercial parce que ça fait appel au commerce, justement au marketing, tout ça. Donc voilà, il y a plusieurs dimensions. Et il est difficile de dire qu'une se détache plus qu'une autre parce qu'elles sont tous un peu interdépendantes.
Imbriquées.
Voilà, elles sont imbriquées, exactement. Chacune dépend de l'autre. C'est très difficile, surtout que chacun a un avis qui diffère là-dessus, et chacun ne veut peut-être pas parler de la même chose en parlant de rap commercial.
Et d'ailleurs, ça pose un problème pour ceux qui réduisent le rap commercial à une dimension économique, c'est-à-dire à partir du moment où le mec vend plus de 100 000 disques, je décrète que c'est devenu commercial. Donc le problème, c'est évidemment de pas ça révèle qu'on n'aimait pas forcément la musique pour ce qu'elle était, mais pour ce qu'il englobait, l'image qu'elle véhiculait, c'est-à-dire une image underground et tout. J'aimais Section d'Assaut quand après eux ils ont changé, donc c'est plus compliqué, mais je ne sais pas. Mais ceux qui ne changent pas, ou j'en sais rien, par exemple peut-être
Yul.
Il a commencé. Non, je sais pas, par exemple Stromae, et je sais qu'il y en avait plein qui aimaient,
oui, c'est vrai.
Qui aimaient au début, et son dernier album Racine Carrée, quand il a explosé, il faisait pratiquement toujours la même chose qu'il avait toujours fait au début sur son album d'avant,
mais ouais, il y en a plein
qui se sont dit oh, c'est devenu commercial, parce que évidemment il avait vendu 1 million de CD.
Oui, exactement. Et donc là aussi on a le dernier axe sur lequel on avait pensé, qui est que une musique commerciale est au final une musique qui ne se vend pas d'elle-même, qui a besoin de faire partie d'un certain circuit, de faire partie d'avoir certains
Ça, c'est la
Certains
définition
sujets.
Substantielle à laquelle on est un peu parvenu, qui nous paraît assez satisfaisante.
Exactement, exactement. Donc voilà, donc ce serait un rap qui n'a pas la qualité pour se vendre autant qu'il le fait. Voilà. C'est un rap qui a besoin d'une qualité ajoutée, d'une valeur ajoutée pour se vendre, qui a besoin
de trouver son public.
Exactement.
Simplement, qui a besoin de radio, qui a besoin de gros producteurs qui vont faire
des sujets. Qui a besoin de sujets particuliers à parler, voilà. Il y a besoin de... Voilà, il y a des besoins. Voilà, c'est un rap qui, en sa substance, n'est pas assez bon pour avoir un succès et en
par
plus le fait aussi que le rap a du succès. On mesure le succès en fonction du nombre de ventes dans le commerce, alors que ça ne reflète pas forcément la qualité.
Non,
donc un
sûr.
Rap commercial n'est pas forcément un rap de qualité. C'est pour ça, je pense, qu'il est connoté négativement.
Ni l'inverse forcément. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que ça se vend que c'est mauvais.
Exactement.
Qu'est-ce que ça signifie? En fait, le nombre de ventes ne signifie rien peut-être sur la qualité de.
Voilà, il signifie la qualité en fait qu'il y a autour de ce rap. C'est la qualité de.
La qualité de la pub.
Oui, de la pub, de la mise en valeur, de la mise en avant, de. Voilà, de comment on peut y accéder, avec grâce à quels moyens, combien ça coûte, à qui ça s'adresse. Voilà, la cible est très importante.
C'est-à-dire qu'on pense qu'il y a des rappeurs qui, s'ils n'avaient pas eu l'aide de radio, etc., etc., ils n'auraient jamais trouvé leur public. Alors qu'il y en a d'autres qui, même sans radio, même sans pub,
sans exposition,
trouvent leur public, parce que peut-être que c'est là où la qualité s'exprime, hein, finalement. C'est là qu'on peut distinguer. Et c'est peut-être là qu'on peut distinguer un rap commercial d'un rap non commercial. Voilà.
Oui, oui, oui. Notamment les raps où on impose des sujets, où le contraire, on empêche de parler de certains sujets. Lorsque l'on rentre dans des maisons de disques, par exemple, la maison de disques peut dire, ben non, vous sortez pas telle ou telle chanson parce qu'elle est comme ci, comme ça. Bon, mais Kaaris n'a pas de problème avec ça, ni Booba, je pense, parce que.
Ça fait leur bise.
Voilà, c'est exactement ce qui fait leur business, donc je pense qu'ils ont une carte blanche. D'ailleurs, Booba est indépendant, me semble-t-il. Je sais plus s'il est toujours, à l'époque, il
oui.
était.
Oui, oui, oui. Oui, il est toujours.
Il est toujours, voilà. Mais je pense qu'il a signé des contrats avec Universal, tout ça pour.
Il a toujours son propre label, mais je crois qu'il est. Il a Talak Records, mais ça existe toujours. Mais oui, mais c'est moins indépendant que depuis deux trois albums. Je sais pas dans quelle mesure.
Depuis que les industries ont compris que justement cette soi-disant indépendance et cette apparence d'indépendance, cette apparence de liberté est en fait ce qui fait le plus le vendre en fait.
Peut-être.
C'est
peut-être.
Ce qui touche le plus, parce que lorsque les gens l'écoutent, ils se disent ah ben voilà, il fait pas partie du système, il est un peu anti-système, il dit ce qu'il veut, j'entends ce que je veux. Il y a une liberté totale. Donc, il y a une valeur ajoutée, aussi. Justement. C'est la valeur ajoutée de ce rap commercial dont on parlait.
C'est bien vu, monsieur ALG. Donc, on va peut-être conclure la séance du jour, hein, qui était fort intéressante en votre compagnie, monsieur le doc.
Et c'est très gentil à vous.
Et donc, on a quand même dit pas mal de choses. On a analysé le public caricien. C'est pas mal cet adjectif, le public caricien.
Le public caricien, oui. Le public à punchline.
Oui, Et donc voilà, on est revenu, on a fait une petite nota bene sur une émission précédente qui avait jugé trop vite Caris, mais qui non plus ne prétendait pas juger, qui était tout simplement la position de récepteur pas informé suffisamment.
Et donc, qui montre la faiblesse d'une punchline iceberg.
La faiblesse et aussi la force, finalement, puisque voilà, on a consacré 20 minutes
exactement
de radio à l'expliquer. Donc c'est intéressant. Et ce qu'on n'avait pas dit aussi sur la punchline iceberg, c'est que ça permet peut-être aussi de fédérer un public. C'est-à-dire, il y a les gens qui ont les outils nécessaires et qui ne l'ont pas, et ceux qui ne l'ont pas. Donc ça permet peut-être de s'adresser encore à son crew, en fait, à ces gens, que de faire des références inconnues, voilà. Invisible. Après, et enfin, nous avons réfléchi sur la dimension commerciale du rap et nous avons donné notre propre définition.
Qui n'engage que nous, évidemment.
Et voilà. Alors, pour finir, on va se passer un petit son que j'apprécie beaucoup et que monsieur ALG apprécie également.
Exactement, on aurait pu vous passer tout l'album, mais on s'est retenu, on a essayé de choisir une chanson qui conclut peut-être notre émission, qui essaie de la conclure de la meilleure des manières.
Exactement, parce que cette émission, ça le fait. Et donc du coup, voilà la
demande.
Réponse, est-ce que ça le fait ?
Bassi au micro et mes mots sont flow. Le son au niveau, mon rap est réglo. Ma voix est lourde, mon style est proche. Je suis le double S, le numéro uno dans le cacho. Promo, télé, radio, téro. Peu importe, je reviens et m'exporte. Force tes portes, c'est la fête, l'ambiance est forte. Tu fixes, je mixe, sans oublier mes risques. Pour ce mon son glisse, comme du VIX 91. Premier disque, première part dans les bacs. Je dis de l'artistique, du grade sur ma musique. Après diagnostic, beaucoup de critiques. Les journalistiques et les syndicats. Tic-tac, tic-tac, ma tactique c'est l'attaque. Ouais, j'ai pour habitude d'être posé comme Tyson. Je suis du circuit, des jeux, des jambes et des mots amers. J'en ai des tonnes dans mon vestiaire. J'ai du calabox, tu le fasses, le rap et la boxe c'est comme du toujours direct, droit, démarrer pour déchirer. Ok, c'est bon, éclate-toi sur mon son. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, laisse-les parler, je suis toujours en place. Est-ce que ça le fait? Ouais, pour que ça le fasse, je suis en place. Est-ce que ça le fait? Ouais, pour que ça le fasse, je suis en place. Est-ce que ça le fait? Ouais, pour que ça le fasse, je suis en place. Est-ce que ça le fait? Ouais, pour que ça le fasse, je suis en place. Laisse-moi passer, je suis chiré, je suis foncé. Laisse-moi passer, c'est à moi de donner. Je suis le doc gynéco, je suis le mec en guevaux. Le mec à la deux mots dont elles sont toutes acrobates des mots. Elles kiffent mes jeux de mots et mon numéro. Je le donne à tout temps. Oh, tu connais la suite, non? N'aie pas peur en créole. Moi, cabao, ça consta, panipon, bah waouh. Doc gynéco, qu'a mettez ça en chouaou. Doc gynéco, oui, je le neko. Oui, tu le neko, c'est le gosse boki. Lèche, la feuille à rouler. Je la lèche, car j'aime la fumée. Tu sais qui a tué, ouais. Tu sais que j'ai flambé, ouais. Que j'ai donné des ouais. Tonnes de style. Est-ce que ça le fait? J'suis en place, est-ce que ça le fait? Ouais, faut que ça le fasse. J'suis en place, est-ce que ça le fait? Ouais, faut que ça le fasse. J'suis en place, est-ce que ça le fait? Ouais, faut que ça le fasse. J'suis en place. En place, toujours en place. Les patrons du rap montent en première classe. À l'aise sur nos chaises, oui on peut. Et sur ce son, on te beurre. En place, comme Végéta, le super guerrier de l'espace. J'ai mauvaise réputation et un cœur de glace. Écoute, ces feelings, prends tous ces ding-ding. Ça te rend ding-ding, mais ne sors pas. Pam-pam, de voilà S pour gynéco sur son premier album. Pour toutes les métropoles, Paul et pour les tom-tom. Usap, Kamehameha, ok. Comme Sangoku sur Sega Fire. Dans le rap, augmente mon aura. L'âge décolle, ton esprit cambriole. T'en perds la boussole comme dans une chirée d'alcool. Et Touré M à sol, tu connais mon symbole. Est-ce que ça le fait? Ouais, faut que ça le fasse, j'suis en place. Est-ce que ça le fait? Ouais, faut que ça le fasse, j'suis en place. Est-ce que ça le fait? Ouais, faut que ça le fasse, j'suis en place.
que ça le fait? Ouais, ouais. Faut que ça le fasse, j'suis en place. Est-ce que ça le fait? Ouais, ouais. Faut que ça le fasse, j'suis en place. En place, quoi qu'il se passe, nous sommes toujours en place. En place, quoi qu'il se passe, nous sommes toujours en place. Pas si gynéco,
toujours en place.
Samazo, Guillaume Bernard,
toujours en place. À quoi qu'il se passe, nous sommes toujours en place.
Aïe aïe aïe, mon ténois ce truc qui est en place. La rue du pont. L'émission touche à sa fin, les amis. Eh oui, je sens toute votre peine et toute votre tristesse. Mais ça repartira pas la semaine prochaine. La semaine prochaine, Monsieur Thug est en vacances. Donc voilà, un peu de calme, un peu de repos. Mais la semaine d'après, toujours là, toujours au poste, fidèle. Monsieur Thug viendra encore une fois faire son émission. Donc nous remercions aujourd'hui Monsieur ALG qui nous a accompagnés.
Je vous remercie aussi très tendrement. Ça m'a fait vraiment plaisir de venir dans cette radio, de venir vous voir, de vous voir en chair et en os, à force de vous écouter. Je suis très très heureux, très ému. Je vais en verser une larme.
Je vous signerai un autographe à la sortie des studios.
C'est très gentil, une photo, ça me fera vraiment très plaisir.
Et donc voilà.
Voilà, j'en profite aussi pour passer une petite dédicace à notre... mon village d'enfance que vous connaissez très bien, me semble-t-il.
Un peu.
Voilà, donc du sud de la France, et à tous nos auditeurs qui nous écoutent et surtout qui écoutent Monsieur Thug. Voilà, donc j'encourage tout le monde à continuer à écouter son émission très pertinente. Voilà, les remarques lui font plaisir. Et donc voilà, bonne continuation à vous, Monsieur Thug. Bonne chance pour le futur.
Ouais, je rappelle à tout le monde que vous pouvez podcaster ces émissions sur le blog Radio Canu de Montaigne Oise Thug et également me suivre mon actualité brûlante sur Facebook. Donc voilà, hein. Après, je rappelle encore une fois que Radio Canu récolte des fonds pour acheter son local. Donc si vous voulez envoyer des sous à Radio Canu, c'est absolument le bienvenu. Et voilà, bisous à tous et à dans deux semaines, l'AMIFA.